Vous écoutez RTL.
Et tout de suite, naissance et portrait d'un chef dans la curiosité Vercingétorix. Bonjour Jean-Louis Bruno.
Bonjour.
Soyez le bienvenu sur RTL. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, archéologue et spécialiste de la civilisation gauloise. Et c'est la campagne de fouilles archéologiques qui a démarré à Poissy, en région parisienne, qui nous a donné envie de nous passionner pour ce chef gaulois. Des fouilles menées sur les terrains qui doivent accueillir le futur centre d'entraînement du PSG.
Oui,
on va d'abord creuser avant de taper la balle. Les Gaulois, est-ce qu'ils ont laissé beaucoup de traces, beaucoup d'objets?
Ah oui, beaucoup. Beaucoup d'objets.
Quel type d'objets?
Essentiellement les choses dans les sépultures, donc beaucoup d'armes et beaucoup d'objets en fer. Donc c'était vraiment la civilisation du fer, ils ont fait une consommation du fer absolument extraordinaire.
Alors c'est formidable, avec vous on va vraiment, Jean-Louis Bruno, découvrir qui était Vercingétorix, comment il a été formé, comment il a combattu, comment il a vécu. Mais qu'est-ce qui reste de lui? Qu'est-ce qui nous est parvenu finalement pour raconter tout ça?
Essentiellement un texte dû à César, donc la guerre des Gaules, donc il y a eu un livre entier, presque un livre entier, le 7e, qui est consacré à Vercingétorix et à tout ce qui s'est passé dans l'année 50.
Et on verra que César n'était pas forcément que son ennemi. Ça, c'est la grande surprise et la révélation de votre livre.
Qui était vraiment Vercingétorix? Vous allez découvrir qu'il n'avait rien à voir avec cette brute guerrière et moustachue qu'on a décrit pendant si longtemps. À tout de suite, les curieux, sur RTL.
RTL.
RTL, c'est
des découvertes,
mais aussi des standards.
Et des nouveautés. On aime la musique sur RTL. La curiosité est un vilain défaut.
En Gaule, César est mis en difficulté. Du cœur de sa terre natale, l'actuelle Auvergne, un chef charismatique du nom de Vercingétorix appelle les Gaules à s'unir contre les Romains.
RTL.
Le plan de Vercingétorix est radical. Incendier toutes les provisions.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Voyant leurs vivres diminuer, les Romains n'ont d'autre choix que de se retirer ou de mourir de faim. Or, César ne bat jamais en retraite.
On est bien entre curieux sur RTL.
Vercingétorix, l'homme qui a osé tenir tête à César. On vous raconte le destin de ce Gaulois exceptionnel avec l'archéologue Jean-Louis Bruno. On va poser le décor parce que c'est quand même un temps assez loin de nous. À quelle époque Vercingétorix est une star de la Gaule?
Au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, donc dans les années 54-52, puisque c'est la fin de sa vie en 52.
Quel est le contexte géographique, politique de l'époque?
Alors la Gaule est un immense pays qui va des Pyrénées jusqu'au Rhin, et de l'océan jusqu'à la Méditerranée, en englobant le plateau suisse. Donc c'est une partie de l'Allemagne, c'est une partie de la Hollande, toute la Belgique. Donc c'est plus vaste que la France actuelle.
Et que représentent les Gaulois par rapport aux Romains? Quelle relation ont ces deux peuples?
D'abord, ils sont très proches ethniquement parlant, si on peut dire. Ils ont des origines un peu communes. Mmh. Et puis, ils sont très proches aussi dans les mœurs. Mais ils ont surtout une rivalité qui est extrêmement ancienne, qui remonte au début du 4e siècle. Vous savez, c'est la fameuse invasion de l'Italie, la fameuse prise de Rome et du Capitole. Et depuis cette époque, il y a une haine terrible de la part des Romains pour les Gaulois, et notamment... César veut venger la Rome d'il y a 4 siècles.
Et comment il veut faire ça?
Il veut effectivement coloniser toute la Gaule, ouais, qui était en partie colonisée, puisque la Provence actuelle, c'était l'ancienne province romaine.
Alors, on a évidemment une image d'Épinal, Jean-Louis Bruno, de Vercingétorix. On va la déconstruire un petit peu ensemble. Est-ce que vous pouvez d'abord nous la rappeler? Qu'est-ce qu'on nous a appris souvent dans les livres d'école?
On nous a appris depuis la vie, depuis la fin du 19e siècle, les premiers manuels scolaires, que c'était le plus ancien héros de France, en quelque sorte. Mmh. Donc c'était vraiment l'ancêtre des Français. Et surtout, il était habillé d'armes de l'âge du bronze, donc qui était totalement anachronique, puisqu'à cette époque-là, on n'était pas capable de le vêtir de ses bonnes armes et de ses bonnes cuirasses, en quelque sorte. Et puis on en faisait un moustachu, effectivement, chevelu, et tout ça est faux.
Alors, à quoi il ressemblait?
Alors, il ressemblait à un Grec de bonne naissance, ou un Romain de bonne naissance. Donc, il avait les cheveux bien bouclés, bien apprêtés. Et surtout, il était parfaitement imberbe. Donc, ce qui posait quand même des difficultés, puisque dans l'Antiquité, pour se raser, ce n'était pas très facile.
C'est un luxe, et ça marquait son origine sociale à Vercingétorix.
Ah, bien sûr,
le fait d'être glabre.
Oui, parce que la majorité des gens ne pouvaient pas se raser complètement. Donc, effectivement, se faire raser, c'était très difficile.
Comment il était habillé, alors, Vercingétorix? Est-ce qu'on le sait ?
Oui, bien sûr, on connaît bien les vêtements des Gaulois, parce qu'on sait qu'ils avaient des pantalons, qu'ils avaient des chemises, puisqu'ils sont les inventeurs du pantalon, pas seulement, puisque les Scythes en avaient aussi, mais des chemises et de la capuche, notamment du manteau à capuche, par exemple. Donc les Gaulois étaient des grands créateurs de mode.
Est-ce que c'était... Quel type d'homme c'était ? Il était grand, baraqué
Voilà, c'est comme ça que ses contemporains romains et grecs le montrent, comme quelqu'un d'effectivement très fort, ce qui est normal, puisqu'il y avait une sorte de sélection en quelque sorte naturelle, et puis surtout il a eu une éducation qui l'a beaucoup développé physiquement, exactement comme César de toute façon.
Est-ce que ça a du sens? Est-ce que son nom a un sens? Vercingétorix,
bien sûr,
ça
bien
veut
sûr.
Dire quelque chose?
Oui, Vercingétorix, le rix qui est au bout, ça fait penser au rex latin, c'est le roi, et c'est le roi des grands guerriers.
Mais c'est un nom de scène ou c'est son nom de naissance à Vercingétorix?
C'est un nom
un peu grandiloquent quand même.
Oui, qui lui a été attribué par sa famille justement comme une promesse d'un rôle très important. Ouais. Mais il n'était pas le seul à avoir un nom comme ça. On a un autre qui s'appelait Saint-Gétorix, qui était le roi des guerriers.
Il a moins percé, lui.
Il a été roi quand même.
Il n'est pas arrivé jusqu'aujourd'hui.
Non, il ne s'en souvient plus.
Voilà. Non, il n'est pas monté aussi haut que Vercingétorix, parce qu'effectivement, Vercingétorix appartenait à une lignée très aristocratique.
Ah oui, donc c'est ce qu'on découvre aussi. C'est-à-dire que c'est un fils d'eux.
Ah oui, c'est une véritable dynastie qui remonte au moins au deuxième siècle, enfin au début du deuxième siècle avant Jésus-Christ, avec des personnes très très célèbres, qui ne parlent peut-être pas à tout le monde, mais qui ont laissé des traces, comme Bituit, Luherne, et son père, surtout Celtile, qui est devenu le chef de toute la Gaule.
Mais ça veut dire qu'il était celte, Celtile,
c'est-à-dire qu'il voulait indiquer par son nom qu'il appartenait aux Celtes, mais les Celtes, c'est une confédération de peuples du centre et du sud de la Gaule. À laquelle appartenaient notamment les Arvernes, dont est issu Vercingétorix.
Vercingétorix, c'est le titre de la biographie que vous publiez chez Gallimard, la première vraie biographie sur Vercingétorix, qui casse l'image de la brute pour nous montrer un homme, un grand homme politique, un rassembleur même. Restez avec nous, les curieux.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Vercingétorix, le chef gaulois au programme de notre curiosité. Son nom veut dire le roi suprême des guerriers.
Ça claque. Hein.
Ouais, c'est joli quand même.
C'est un beau destin.
Et c'est notre invité, le directeur de recherche au CNRS et archéologue Jean-Louis Bruneau, qui nous l'a appris tout à l'heure. Grâce à vous, on a aussi découvert que Vercingétorix n'était pas une brute poilue, mais un homme bien rasé qui venait d'une noble lignée, d'une noble famille. Est-ce qu'on a des objets qui lui ont appartenu? Est-ce qu'on a récupéré ça ou pas?
Non, parce qu'il n'y a pas... D'abord, on n'a pas sa sépulture, et puis les Gaulois n'écrivaient pas, donc on ne peut pas savoir ce qui appartient à qui, en quelque sorte. Non, tout ce qu'on possède, c'est déjà très précieux, c'est une série de monnaies qui le représente, que lui a fait battre d'ailleurs, en indiquant bien qu'il s'appelait Vercingétorix et qu'il prétendait justement être le roi des Arvernes et au-delà de tous les Gaulois.
Et cette monnaie permet de le voir à plusieurs époques de sa vie?
Non, c'est une monnaie qui a été battue aux environs de 55-54 avant Jésus-Christ, et ça a été ponctué en quelque sorte.
Alors, quelle enfance a eu Vercingétorix? Dans quel coin de la Gaule a-t-il vécu?
Ah, c'est un Arverne, donc on est en plein chez les Auvergnats, donc on est sur le Massif Central, dans ce qu'on appelle une cité, c'est-à-dire un peuple et son territoire qui est extrêmement puissant et qui est un peuple leader et qui se confronte sans arrêt aux Éduins qui, eux, habitent la Bourgogne, la région de Dijon et d'Autun. Donc, il y a une rivalité entre ces deux peuples.
Il vient d'une grande famille, Vercingétorix. Qui va l'élever, qui va le former aux armes, au sport, au métier de politique?
Alors, c'est une éducation qui est un petit peu le même type que celle des Romains, c'est-à-dire qu'il est déjà appris dans sa famille, puisque c'est une famille noble, donc il y a des gens qui peuvent s'occuper de lui, et qui très tôt l'apprennent à monter à cheval, à manier les armes, et ça c'est quelque chose qui se fait très très tôt chez les Gaulois. Et puis...
Les druides jouent un rôle dans la formation?
Ah, tout à fait, la formation intellectuelle, donc les druides, ces personnages qui fascinent tant les lecteurs
auditeurs, d'Astérix,
ce sont des grands sages, des grands savants, en fait ce sont des philosophes, c'est comme ça que les Grecs les voient comme des philosophes, mais ils ont aussi cette fonction d'être des pédagogues et aussi de faire de la théologie. Donc ils ne s'occupent pas seulement de religion, mais ils s'occupent de science et ils enseignent aux enfants. Et puis surtout, ils ont un rôle de juge, et c'est tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils exercent une justice qui est au-dessus des cités, au-dessus des peuples.
Jean-Louis Bruneau, à quel moment de sa jeunesse, Vercingétorix décide d'honorer la signification de son nom, le roi suprême des guerriers, et de devenir un chef?
Bon, je pense que ça s'est fait progressivement. C'est quelque chose qui lui a été mis dans la tête d'abord par ce nom, et ensuite il a continué progressivement.
C'est quoi son grand projet, son idée? Il a envie de quoi, Vercingétorix?
À Vercingétorix, il veut reprendre l'aventure de son père, puisque son père a eu une aventure tout à fait extraordinaire, mais qui a cessé brusquement, puisque son peuple l'a mis à mort, parce que les Arvernes craignaient qu'il devienne un tyran. Or, les Gaulois ne supportaient pas les tyrans.
Donc, ils aimaient la démocratie?
C'était un système démocratique qui ressemble d'ailleurs beaucoup à celui des Romains, et au lieu d'avoir deux consuls, ils avaient ce qu'on appelle un premier magistrat qui s'occupait d'administration, et un autre personnage important qui, lui, s'occupait des affaires militaires.
Donc il reprend en quelque sorte le grand œuvre de son père, il veut continuer.
Oui, c'est-à-dire que même...
Donc rassembler les peuples de Gaulle, c'est ça l'idée?
Alors au départ, déjà rassembler son peuple et sa clientèle autour de lui, parce que les Gaulois fonctionnent comme les Romains, avec les personnages importants ont toute une clientèle autour d'eux, donc il faut déjà rassembler sa clientèle.
Plutôt des nobles, plutôt des paysans?
De tout, ouais. Puisque il y a une citoyenneté en Gaule, ouais. Donc les gens votent, donc ce sont véritablement des citoyens, ils ont aussi le devoir d'obligation militaire, donc il faut rassembler les suffrages de ces gens-là.
Mais il y a beaucoup de peuples gaulois, on ne se rend pas très bien compte aujourd'hui.
Il y en a une soixantaine qui nous sont connus par César, donc c'est beaucoup, et ce sont donc, enfin ceux qu'on connaît, il y en a une soixantaine.
D'accord. Alors, l'une des découvertes, et l'une, je dois l'avouer, de mes grandes surprises en préparant cette émission et en lisant votre biographie de Vercingétorix publiée chez Gallimard, c'est le lien entre Vercingétorix et César. Pour moi, ce sont des ennemis, un point, c'est tout, et pourtant, on va découvrir le rôle que César a joué dans l'éducation de Vercingétorix. Restez avec nous, les curieux.
Nos ancêtres, les Gaulois, cheveux blonds et tête de bois, longue moustache et gros dada.
La curiosité est un vilain défaut.
Moi je dis fini l'érotisme, restons français, soyons Gaulois, la gauloiserie, ça c'est ma loi.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Auprès des menhirs, la troupe en délire, astique à les fers de lance. Vercingétorix, un durin caïd, étudia la carte de France.
Bienvenue sur RTL, les curieux.
Vercingétorix, inspire Rissé, Barrier, Jacques Dutronc et Henri Salvador. Vercingétorix, grand homme politique, bien rasé, pas du tout une tête de bois comme le chante Henri Salvador, un rassembleur qui a su fédérer 45 peuples derrière lui dans les années 50-40 avant notre ère. C'est la nouvelle image du chef que l'on vous donne grâce à Jean-Louis Bruno, archéologue. C'est vrai que dans nos mémoires à nous, le duel au sommet, c'est César et Vercingétorix. Et pourtant, quand on vous lit, on découvre que l'un a formé l'autre.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut se savoir que dès le début de la guerre des Gaules, qui a pris quand même plus de 8 années, donc dès la première année, César établit des traités avec les peuples qui veulent collaborer avec Rome. C'est le cas des Arvernes, donc
le peuple de
Vercingétorix. Et dans ce cas-là, les Romains procèdent toujours de la même manière. Ils prennent des otages parmi les fils de grandes familles. Et donc,
mais les otages, ils les kidnappent?
C'est pas kidnappé, c'est qu'ils les gardent auprès d'eux dans leur cour, parce que finalement le camp de César, ça devient une sorte de cour, et c'est un petit peu des otages à la mode médiévale, c'est-à-dire que ce sont des princes qui sont en quelque sorte en résidence dans le pays étranger et qui sont traités comme les fils, par exemple, de César. S'il avait eu des fils, il les aurait traités de la même manière.
Mais ça veut dire qu'il lui a aussi appris des choses, il l'a formé en quelque sorte, César?
Ah bah par la force des choses, c'est-à-dire que pendant 3 ans, semble-t-il, Vercingétorix s'est resté dans le camp de César, tout près de César, même près de sa tente, puisqu'il avait droit aux quartiers principaux du camp romain. Mmh. Et donc, il voyait tout ce qui se passait. Donc, il apprenait par lui-même, en quelque sorte. Et puis, de toute façon, César associait justement ces jeunes princes à certaines discussions, à certains banquets.
Il y a quel écart d'âge entre César et Vercingétorix?
Une petite vingtaine d'années, semble-t-il.
À quel moment Vercingétorix décide d'utiliser les forces et les faiblesses de César pour se retourner contre lui?
Alors il le fera quand il sera rentré chez lui, parce que donc cette période d'otage en quelque sorte,
de formation,
c'est à la fois donc une caution pour César que les traités seront respectés, mais en même temps, lui, il compte bien, César, apprendre la romanité à ses Gaulois, et lorsqu'au bout de, effectivement, 2-3 ans, ses otages ont finalement compris quel était leur avenir auprès de César, il les renvoie chez eux, donc dans leur cité, chez les Arvernes, pour faire Vercingétorix, afin qu'ils prennent le pouvoir et qu'ils soient des collaborateurs à part entière de César.
Et il retourne sa veste, Vercingétorix, il décide de faire cavalier seul.
Ah ben c'est bien plus tard, c'est-à-dire que de toute façon son peuple était pour la collaboration avec Rome, donc lui il a suivi au départ, mais il a finalement opté pour une résistance quand il s'est rendu compte avec beaucoup d'autres nobles de toute la Gaule que César les menait en bateau, c'est-à-dire qu'en fait la guerre des Gaules a traîné pour des raisons de politique romaine, pour des raisons de politique personnelle de César qui voulait s'enrichir au maximum sur le dos des Gaulois, et beaucoup de nobles gaulois en ont eu assez et se sont rendus compte qu'ils n'auraient jamais le pouvoir chez eux finalement.
Et est-ce qu'on peut dire que Vercingétorix n'aurait pas eu ce destin de grand chef gaulois sans ces trois années passées sous l'aile, si j'ose dire, de Jules César?
On peut pas dire ça, mais il n'aurait pas eu du tout la même carrière politique, la même carrière militaire, parce qu'il a appris énormément en voyant d'ailleurs comment, vous savez, le camp romain, les légions romaines, ce sont de véritables machines de guerre. Donc, quelqu'un d'intelligent comme l'était Vercingétorix ne pouvait être que fasciné. Donc là, il a appris uniquement en regardant. Puis il a aussi collaboré à la guerre, c'est-à-dire que les otages de grands noms comme Vercingétorix, mais il y avait aussi des étudiants auprès de lui, dirigeaient des cavaleries qui étaient des auxiliaires de César. Donc les cavaliers, notamment romains, c'était des Gaulois en fait. Et donc Vercingétorix a dirigé une cavalerie pour le compte de César.
Et malgré tout, Vercingétorix perdra face à l'armée romaine et à César dans cette fameuse bataille d'Alésia qu'on peut lire et découvrir dans votre très bonne biographie. Vercingétorix, c'est chez Gallimard. Merci infiniment, Jean-Louis Bruno.
Merci.
Merci beaucoup.
Vous écoutez RTL.